Merci d'écouter RFI. Midi en temps universel, il est 14h ici à Paris et à Berlin. C'est l'heure du journal. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une, la visite de Volodymyr Zelensky en Allemagne.
Le président ukrainien arrivé ce matin à Berlin pour rencontrer le nouveau chancelier Friedrich Merz, l'un de ses plus fervents soutiens en Europe. Dans ce journal aussi, nous reviendrons sur cette distribution d'aide à Gaza qui a viré au drame. Hier, elle était organisée par la Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par les États-Unis et Israël et vivement critiquée par les Nations Unies et les ONG. Israël appelé par les dirigeants du monde à cesser les bombardements. Cela a encore été le cas aujourd'hui en Indonésie où Emmanuel Macron est en visite. Nous vous présenterons le nouveau patron d'un géant de l'automobile aussi, Antonio Filosa, qui prend la tête de Stellantis. Et puis c'est une première, les grands groupes émetteurs de gaz à effet de serre ont été reconnus par la justice comme responsables dans les catastrophes climatiques. On vous raconte tout.
Un sommet à trois, Vladimir Poutine, Donald Trump, Volodymyr Zelensky ne sera possible qu'une fois des accords concrets conclus avec Kiev, c'est ce qu'affirme le Kremlin.
En réponse à la proposition faite ce matin par Volodymyr Zelensky, le chef d'État ukrainien, arrivé en fin de matinée à Berlin, où il doit rencontrer cet après-midi le président allemand. Avant cela, il s'est entretenu avec le nouveau chancelier Friedrich Merz, l'un de ses plus fervents soutiens, qui a déjà annoncé avant-hier que les alliés de Kiev ne fixaient désormais plus de restrictions à la portée des armes fournies. Bonjour Nathalie Versieux.
Bonjour.
Volodymyr Zelensky et Friedrich Merz ont donc eu rendez-vous dans la matinée. Ils en sont sortis il y a quelques minutes et donnent en ce moment une conférence de presse avec déjà de premières annonces.
Oui, deux sujets figuraient à l'ordre du jour des entretiens de ce matin, le soutien militaire à l'Ukraine et la tentative de parvenir à un cessez-le-feu. Friedrich Merz a annoncé un nouveau paquet d'aide militaire sans communiquer de détails à ce sujet. Il avait déjà annoncé au tout début de son mandat. On sait aussi qu'il n'a pas autant de marge de manœuvre qu'il le souhaite sur les livraisons d'armes de longue portée. Devant la presse, Merz a annoncé un renforcement de la coopération industrielle militaire pour produire des armes sur le sol ukrainien. Le géant allemand de l'armement Rheinmetall construit d'ailleurs en ce moment même une usine de munitions en Ukraine. Merz n'a pas non plus les coudées franches sur l'autre point qui lui tient à cœur, l'adoption de nouvelles sanctions contre Moscou. Le plan européen d'adopter un nouveau paquet de sanctions est pour l'heure bloqué par Washington. Alors cette visite a lieu dans un cadre très particulier alors que le chancelier semble tourner le dos à la politique très prudente de son prédécesseur Olaf Scholz. Lundi, il disait lever la limitation de portée pour les armes livrées par l'Allemagne à l'Ukraine. Cela relance en Allemagne le débat autour de la possible livraison de missiles longue portée Taurus. Mais pour l'instant, ce sujet n'a pas progressé et on n'a pas d'informations à ce niveau.
Merci beaucoup Nathalie Versieux en direct de Berlin pour RFI. Sur le front, les combats, eux, se poursuivent. La Russie, qui a annoncé dans la matinée l'interception de près de 300 drones ukrainiens, a affirmé avoir pris un village de la région ukrainienne de Soumy dans le nord-est, après avoir déjà revendiqué lundi la prise de deux autres villages dans cette même zone pour, je cite, créer une zone tampon. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, assure que Moscou a regroupé 50 000 soldats en vue d'une offensive.
Les bombardements israéliens doivent cesser. Avertissement ce matin du chef de la diplomatie italienne.
Il estime que ce qui se passe à Gaza suscite une douleur immense et que les Gazaouis paient depuis trop longtemps un prix trop élevé. Alors qu'un Palestinien a été tué et une cinquantaine d'autres blessés hier dans des scènes de cohue, l'armée israélienne dément avoir tiré sur la foule. Mais le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a lui-même reconnu une perte de contrôle momentanée. Cela s'est passé lors d'une distribution d'aide de la Fondation humanitaire de Gaza, nouvelle organisation soutenue par Israël et les États-Unis, contre qui les critiques fusent ces derniers jours à Blajounaïdi.
Les images de l'anarchie hier à Rafah ont fait le tour du monde. Des tirs, principalement israéliens selon l'ONU, ont tué une personne et blessé 48 autres. Une tragédie de plus qui aurait pu et aurait dû être évitée, selon Philippe Lazzarini, le directeur de l'UNRWA.
Ce que nous avons vu hier, ce sont les images choquantes de gens affamés poussant les barrières, cherchant désespérément de la nourriture. C'était chaotique, indigne et dangereux. Je pense que c'est un gâchis des ressources et que cela détourne l'attention des atrocités. Pendant ce temps, la famine progresse. Donc il faut autoriser les humanitaires à faire leur travail, sauver des vies maintenant.
Le directeur de l'UNRWA déplore la mise au ban de l'agence par Israël au profit de la Fondation humanitaire de Gaza, une nouvelle structure qui bénéficie du soutien américain. L'ONU estime qu'elle ne permettra pas de répondre aux besoins des 2 300 000 habitants de Gaza. Il faudrait au moins 500 à 600 camions chaque jour, estime l'ONU. Depuis la fermeture des frontières, il y a près de 3 mois, des camions pleins de nourriture et de produits sanitaires pourrissent aux portes de l'enclave. Et désormais, un demi-million de Palestiniens à Gaza sont au bord de la famine.
Abla Jounaïdi, et ce matin, la défense civile de Gaza a annoncé la mort de 16 personnes, dont des enfants, dans plusieurs frappes israéliennes. La situation à Gaza, il en a aussi largement été question. Aujourd'hui, en Indonésie, où Emmanuel Macron, le président français, est arrivé ce matin, reçu en grande pompe au palais présidentiel par son homologue, puis par des étudiants d'une université de Jakarta, où il n'a pas vraiment évoqué la quarantaine de gros contrats pour les entreprises françaises. Bonjour Nicolas Roca.
Bonjour Alban.
Vous êtes l'envoyé spécial de RFI sur place. On le disait, la journée a surtout tourné autour de Gaza et des Palestiniens.
Oui, elle a débuté avec des mots rares ce mercredi qui défilent sur les écrans de télévision ici. Ceux de Prabowo Subianto, président de l'Indonésie, pays qui ne reconnaît pas Israël. Il a officialisé au plus haut niveau la ligne officielle de Jakarta, celle d'une solution à deux États.
L'Indonésie a indiqué qu'une fois qu'Israël aura reconnu un État de Palestine, elle sera prête à reconnaître Israël et à établir des relations diplomatiques.
Il a également évoqué le droit d'Israël à assurer sa sécurité, une sortie très sensible dans le pays musulman le plus peuplé de la planète. En témoigne la première question posée à Emmanuel Macron par les étudiants venus le rencontrer à l'université d'État de Jakarta. Elle portait sur la guerre à Gaza.
Ce que nous allons faire, c'est déclencher un mouvement de reconnaissance de l'État palestinien, mais sous certaines conditions. Libération des otages, démilitarisation du Hamas, pas de participation du Hamas, mais aussi le fait que cet État palestinien doit reconnaître l'État israélien et son droit à se protéger. Et c'est la seule manière, et votre président ce matin a fait un discours très important, le jour où Israël reconnaîtra la Palestine, je reconnaîtrai Israël.
À l'approche de la conférence sur une solution à deux États en juin à l'ONU, le président de la République tente de mobiliser sur le sujet en Asie du Sud-Est. Prochaine étape, son grand oral au dialogue de la défense de Shangri-La à Singapour ce vendredi.
Merci Nicolas Roca en direct de Jakarta pour RFI. Et toujours au Proche-Orient, la FINUL, la mission de l'ONU au Liban, a affirmé il y a quelques minutes que des casques bleus ont été brièvement bloqués par des hommes en civil dans le Sud-Liban.
Bientôt 6 mois après la mise à l'écart de Carlos Tavares du poste de directeur général du groupe automobile Stellantis, et on connaît enfin le nom de son successeur.
Il s'agit de l'Italien Antonio Filosa, 51 ans, dont 26 passés dans le groupe, qui possède les marques Fiat, Citroën, Jeep ou encore Maserati, pour ne citer qu'elle, mais qui a connu une année difficile en 2024 en termes de vente, particulièrement aux États-Unis. Agnieszka Kumor, que sait-on du nouveau patron du géant de l'automobile ?
L'arrivée d'Antonio Filosa à la tête de Stellantis n'est pas une surprise. L'Italien était l'un des profils internes favoris depuis la mise à l'écart de son prédécesseur fin 2024. Entré chez Fiat en 1999, cet ingénieur de formation a fait toute sa carrière au sein du groupe italien avant d'être promu fin 2024 directeur pour l'Amérique du Nord et du Sud chez Stellantis, devenu entre-temps le géant franco-italo-américain. C'est grâce à lui que la marque Fiat est devenue leader du marché sud-américain. À présent, bon nombre de défis l'attendent. Carlos Tavares a fait de la chasse au coût son mot d'ordre, mais la qualité décevante de certains modèles et des tarifs trop élevés ont provoqué l'effondrement des ventes du groupe aux États-Unis et ont poussé Carlos Tavares vers la sortie. Il faudra à Antonio Filosa toute son expérience et courage pour redresser la barre. Le nouveau directeur général de Stellantis prendra ses fonctions le 23 juin prochain.
Un portrait signé Agnieszka Kumor.
Il est 14h10 en France où un vote politique avait lieu hier.
Et le résultat était attendu. Il est tombé ce matin. C'était le premier tour du congrès du Parti Socialiste pour nommer la direction du parti. Les 40 000 adhérents étaient appelés à voter pour départager trois candidats. Olivier Faure, actuel patron du PS, Nicolas Maillard-Rossignol, le maire de la ville de Rouen en Normandie, et Boris Vallaud, député socialiste. Et c'est ce dernier qui a été éliminé. Le duel annoncé entre les deux candidats restants pour le second tour s'annonce donc déterminant pour l'avenir du parti. Et c'est bien Boris Vallaud qui a été sorti, qui pourra faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre, Valérie Gasse.
Boris Vallaud est dans la position du faiseur de roi et dès ce mardi matin, les deux qualifiés pour le second tour, Olivier Faure arrivé légèrement en tête avec un peu plus de 40% des voix et Nicolas Maillard-Rossignol, lui, ont lancé un appel à les rejoindre pour former une nouvelle direction. Les quelques 20% des voix recueillis au premier tour par le patron des députés socialistes seront en effet déterminants pour gagner le 5 juin prochain. Depuis le dernier congrès à Marseille en 2023, Olivier Faure et Boris Vallaud ont travaillé ensemble. Le premier secrétaire sortant espère donc obtenir une nouvelle fois son appui. Mais dans le camp de Nicolas Maillard-Rossignol, on veut croire qu'aujourd'hui la donne a changé, comme l'explique le député Philippe Brun.
Il y a deux visions maintenant en lice. La vision de la continuation de la politique menée depuis 7 ans, c'est le socialisme de sous-traitance qui aujourd'hui a été battu par les militants. 60% d'entre eux n'en veulent plus. Et la ligne d'affirmation que nous portons avec Nicolas Maillard-Rossignol et que nous portons aussi avec Boris Vallaud.
La question de la ligne et des alliances à gauche, notamment pour la prochaine présidentielle, c'est la question centrale et un des éléments du choix de Boris Vallaud pour le moment silencieux. L'autre enjeu du second tour, c'est de savoir si Olivier Faure acceptera le débat que réclame Nicolas Maillard-Rossignol.
Valérie Gasse, chef du service politique de RFI.
C'est inédit dans l'histoire judiciaire. Un tribunal allemand vient pour la première fois de reconnaître la responsabilité mondiale des fournisseurs d'énergie dans les dommages liés au changement climatique.
Alors, la cour d'appel devait statuer sur la validité ou non d'une plainte déposée par un agriculteur péruvien soutenu par German Watch contre le groupe allemand RWE qui lui reprochait d'être responsable du risque d'inondation de sa maison. Risque accru, selon lui, par la fonte d'un glacier proche de chez lui. Bonjour Juliette Pietraszewski.
Bonjour Alban, bonjour à tous.
Alors la plainte de ce péruvien a été rejetée, mais il y voit tout de même avec son avocat une victoire.
Oui, si le tribunal estime que le risque d'inondation est très faible pour la maison de l'agriculteur et qu'il rejette sa demande de compensation, il reconnaît tout de même la responsabilité des grands émetteurs de gaz à effet de serre dans les catastrophes climatiques. RWE n'est certes pas présent au Pérou, le groupe avançait d'ailleurs l'argument de la distance entre ses centrales électriques et le lieu de résidence de l'agriculteur péruvien, un argument rejeté par les juges et pour Noah Walker, le chercheur conseillant l'équipe juridique de l'agriculteur péruvien, c'est donc un signal positif.
Cette affaire repose sur le principe selon lequel ce ne sont pas les pays du Sud comme le Pérou qui doivent porter tout ce fardeau de faire face au changement climatique. Les émetteurs majeurs doivent aussi le faire. Le juge a été très clair dès le début, il a parlé d'inégalité mondiale. Le problème du réchauffement climatique est d'abord causé par les principaux pays et les principales économies du Nord, alors que les pires impacts sont ressentis dans le Sud global.
Le jugement rendu contre le géant allemand de l'énergie crée une jurisprudence qui pourrait influencer la quarantaine d'affaires similaires en cours dans le monde entier.
Juliette Pietraszewski. On en vient à cet événement tout à l'heure au Japon. Scène de liesse, un nouveau Yokozuna, un terme qu'on utilise pour parler des champions suprêmes de sumo, a été intronisé. Il s'appelle Onosato, a 24 ans et pèse 191 kilos. Il a la particularité d'être japonais, ce qui n'était plus arrivé depuis près de 10 ans. Alors forcément, dans les rues de Tokyo, les habitants rencontrés par le correspondant de RFI, Bruno Duval, sont très fiers.
Onosato accomplit un exploit sans précédent qui marquera donc à jamais l'histoire du sumo. Il se hisse au sommet de cette discipline alors qu'il n'est lutteur professionnel que depuis 2 ans. Son ascension fulgurante et son élévation au rang de Yokozuna mettent donc cet Okuhite en joie.
Félicitations à lui, quel moment magnifique, j'en ai les larmes aux yeux.
Je suis très très ému, c'est juste énorme.
Je suis folle de joie et aussi infiniment reconnaissante car il a tout donné pour en arriver là.
Je suis trop content. J'espère qu'il deviendra le plus grand Yokozuna de tous les temps. Sa consécration réjouit le pays tout entier, mais elle touchera particulièrement les habitants de la région d'où il vient, car ils ont énormément souffert.
Ono Sato est originaire d'Ishikawa, une péninsule située sur la côte ouest de l'archipel, et qui l'an dernier a subi deux catastrophes naturelles majeures. Une série de violents séismes qui firent près de 600 morts, puis des précipitations exceptionnelles qui achevèrent de la dévaster. Le nouveau Yokozuna a dédié sa promotion aux habitants de sa région natale et promis de continuer à donner le meilleur de lui-même dans sa carrière sportive afin de leur procurer de la joie et du réconfort. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Et c'est ainsi que se termine votre journal, Alban Le Prince. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Il est 14h15 à Paris. Et on va parler de l'actualité sportive hors sumo. Bonjour Thomas de Saint-Léger.
Bon, je fais pas le poids. Bonjour Anne.
Avec du tennis d'abord, début du deuxième tour sur la terre battue de Roland-Garros.
Et le retour de Giovanni Pecci-Péricard sur un cours Suzanne Lenglen qu'il avait déjà bien enflammé dimanche. Bonjour Baba Cardiara.
Bonjour Thomas.
Le jeune français doit entrer en piste dans quelques instants.
Oui, du haut de son double maître dimanche, Giovanni Pecci-Péricard avait vraiment, vous l'avez dit, enflammé la rencontre face à Zizou Bergs. Un tournant avait eu lieu dans le troisième set avec le Belge qui menait 5-0 dans le jeu décisif avant que le Français de 21 ans lui envoie des parpaings au service pour finir à 7-5 et filer vers la victoire. Pecci-Péricard s'est libéré d'un poids avec cette première victoire à Roland, même s'il fait tout pour rester dans sa bulle.
Ça fait beaucoup de pression, hein. Si on regarde la pression de la famille, des gens, il y a beaucoup d'attentes. Et en plus, j'ai des attentes, tout le monde a des attentes. Le plus important, déjà, c'est de se concentrer sur soi-même. J'ai des objectifs, pas des objectifs en termes de résultats, mais des objectifs de jeu. Je vais passer par là, en fait, et pas me concentrer sur le résultat. Tout le monde aimerait voir des Français en deuxième semaine, ou même mon coach, ou même ma famille, mais pour arriver en deuxième semaine, il va falloir que je mette des ingrédients sur le jeu, et que je mette des choses sur la table pour pouvoir gagner. C'est comme ça que je vais pouvoir répondre aux attentes, même si c'est pas vraiment la préoccupation pour moi et mon équipe.
Et s'il s'impose face au Bosnien Djumur, Pecci-Péricard croisera peut-être vendredi le tenant du titre Carlos Alcaraz qui déroule actuellement sur le châtrier face à Fabian Marozan, 4-1 dans le premier set. Un autre Français, Quentin Alice, est au coude à coude avec le Serbe Kekmanovic, 1-7.
Chez les dames, c'était une révélation, c'est une confirmation. La Canadienne Victoria Mboko poursuit sa route.
La pépite de 18 ans, canadienne d'origine de RD Congo, a disposé en 2-7 6-4, 6-4 de l'Allemande Eva Lis. Et sa journée n'est pas terminée. Un marathon médiatique l'attend avec un passage notamment sur la TV américaine installée Place des Mousquetaires. C'est dire la dimension qu'elle a pris en 2 victoires dans un grand chelem. Mais il faudra vite se reconcentrer. Vendredi, au 3e tour, elle affrontera la tête de série numéro 8, Qinwen Zheng.
Et on suivra son parcours et on suit toute cette journée à Roland-Garros avec vous, Babacar Diarra, merci beaucoup.
En football, après la victoire de Tottenham en Ligue Europa et avant la finale de la Ligue des Champions samedi entre le PSG et l'Inter Milan, c'est la Ligue Conférence qui rend son verdict ce soir.
Un peu prise en sandwich, cette petite compétition, la plus petite en tout cas des compétitions continentales. Et pourtant, l'affiche de la finale est intéressante. Elle oppose à Wrocław en Pologne, le Betis Séville à Chelsea, les Blues de Londres, 4e du classement final du championnat d'Angleterre, qualifié pour la Ligue des Champions. C'était l'essentiel. Et ce soir, c'est plutôt la cerise sur le gâteau. Mais bon, après l'avoir joué à fond, cette Ligue Europa, cette Ligue Conférence, autant conclure en beauté l'entraîneur Enzo Maresca.
La chose probablement la plus compliquée cette saison à propos de la Ligue Conférence, ça a été de convaincre les joueurs que pour nous, c'était la meilleure compétition du monde. Et la raison, c'était que c'était la compétition dans laquelle nous étions engagés. Chaque match a donc été difficile, notamment parce que je devais convaincre les joueurs que nous ne pouvions rien lâcher, car on pouvait perdre des points contre n'importe quelle équipe. Nous devions respecter chaque adversaire que nous affrontions. Cela étant, je ne suis pas focalisé sur le fait de gagner ce trophée. Bien sûr, je serais heureux si nous le faisons, surtout pour le club et les supporters, et aussi parce que Chelsea peut devenir le premier club en Europe à remporter toutes les compétitions européennes.
Enzo Maresca, l'entraîneur italien de Chelsea, Betis Chelsea, 19h, temps universel pour le coup d'envoi.
Enfin, en basket, l'affiche de la finale NBA se précise.
À l'Est, Indiana a pris une bonne option en gagnant cette nuit le troisième des quatre premiers matchs de sa série face à New York, 130-121, 32 points pour Haliburton, 30 pour le Camerounais Pascal Siakam, les deux hommes forts du 5 majeur. Ça fait donc 3-1 pour les Pacers, 3 victoires à 1. C'est aussi l'avantage d'Oklahoma sur Minnesota à l'Ouest. Oklahoma peut plier l'affaire et se qualifier pour la grande finale en remportant le 5e match ce soir sur son parquet.
Merci Thomas de Saint-Léger.
RFI. Le Monde à midi.
Direction les États-Unis où l'administration Trump resserre encore les taux autour des universités. Elle refuse d'étudier la moindre demande de visa d'étudiants étrangers. Plus d'entretien, plus de prise de rendez-vous, plus rien. Les autorités veulent d'abord fouiller tout ce que les intéressés ont publié sur les réseaux sociaux ces dernières années. Nous sommes en ligne pour en parler avec Gabriel Solens, chercheur en civilisation américaine à l'université Paris-Cité. Bonjour.
Bonjour.
C'est donc un pas de plus. Jusqu'à présent, l'administration visait les étudiants qui avaient affiché des positions pro-palestiniennes, qui avaient manifesté sur les campus. Là, elle dit vouloir s'assurer que les candidats ne représentent pas de menace sur la sécurité. C'est assez large comme terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça recouvre?
Alors, c'est tout simplement un moyen de poser problème à Harvard. Les conservateurs ont déclaré la guerre à Harvard et aux grandes universités américaines de la Ivy League, jugées beaucoup trop progressistes. Ça faisait plusieurs années que ça dure, et là, depuis que Trump est au pouvoir, il a décidé, dans le cadre de cette nouvelle présidence beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus illibérale, attaquant de front tout ce qui représente l'ordre libéral, le progressisme, eh bien, elle emploie tous les moyens possibles pour faire plier Harvard et la forcer à revoir certains de ses programmes, son orientation politique.
Et qu'est-ce que ça représente justement comme levier? Qu'est-ce que ça représente financièrement, par exemple, pour ces universités, le nombre d'étudiants étrangers qui viennent chaque année?
Alors, ça représente financièrement, c'est pas grand-chose. Financièrement, là, les financements fédéraux que l'administration Trump refuse d'accorder à Harvard, c'est une somme assez faible de leurs financements généraux. Les facs américaines ont énormément d'argent, beaucoup de financements privés aussi. Mais en l'occurrence, là, Trump s'attaque au prestige de Harvard, son rayonnement international. C'est-à-dire qu'il atteint l'image de Harvard à l'international en l'empêchant de former des élites étrangères en rendant plus public, c'est la raison pour laquelle on en parle ici en France, les problèmes qui, selon lui, se déroulent à Harvard, avec une administration qui serait trop woke, qui ne lutterait pas assez contre l'antisémitisme, par exemple. Donc le but, c'est de les embarrasser.
C'est le cas, il en a beaucoup été question de l'antisémitisme. Est-ce que c'est juste un prétexte, comme le disent un certain nombre de voix et d'observateurs? Est-ce qu'il y a réellement aussi un problème d'antisémitisme? Il y avait eu certains actes quand même relevés lors de manifestations pro-palestiniennes.
Ah, il y a des manifestations pro-palestiniennes et dedans, effectivement, il y a eu de l'antisémitisme. Pas que, mais il y en a eu, effectivement, dans beaucoup d'universités, les autorités de l'université ont laissé faire les conservateurs, la droite américaine a considéré qu'elle n'en faisait pas assez et ça fait un petit moment que ça dure. La précédente présidente de Harvard, Claudine Gay, avait été faite tomber pour ces raisons-là notamment et pour une affaire de plagiat sur son doctorat aussi. Mais ça fait quelques années que ça dure, mais c'est aussi un moyen d'attaquer comme ça ces universités, ce qu'ils appellent le wokisme à la tête.
Alors Harvard, ça c'est l'objectif. Harvard en est un symbole. Voilà l'objectif de l'administration. Maintenant, sur la méthode, les autorités disent qu'elles veulent avoir accès aux réseaux sociaux des étudiants qui voudraient venir aux États-Unis, à toutes les informations depuis 2019. C'est faisable même matériellement sans compromettre les inscriptions?
Ça va mettre du temps, ça c'est certain. Mais ça, c'est un moyen aussi d'embarrasser l'université pour qu'elle ne veuille pas engager des procédures trop complexes pour lesquelles elle n'est pas préparée.
Parce que cette tâche reviendrait aux universités, pas à l'administration.
Il faudrait effectivement qu'elle coopère, ça c'est certain. Mais c'est un moyen comme un autre de faire plier Harvard, pour des raisons purement politiques.
Là, vous nous l'avez dit, il y a une offensive très claire contre Harvard, on le voit depuis plusieurs semaines maintenant. Harvard a décidé d'engager un bras de fer, notamment sur le plan judiciaire, de résister. Est-ce que les autres universités de l'Ivy League que vous citiez tout à l'heure, mais d'autres grands établissements, ont les moyens de faire la même chose ?
Bien sûr, ils ont largement les moyens. En fait, ce qu'ils veulent, c'est faire jouer la montre. Il y a beaucoup de contre-pouvoirs aux États-Unis. On voit qu'ils sont déjà à l'œuvre avec les cours d'appel fédéral. Pour faire durer en fait les procédures qu'engage l'administration Trump, qui essaie de créer un rapport de force en fait sur tous les sujets. On a vu comment est-ce qu'ils ont essayé de frapper de sidération le camp démocrate en s'attaquant absolument à tout, sur l'immigration et de manière très dure, hein, sur les financements de la recherche publique. Oui, elles peuvent engager une riposte juridique. L'administration de Trump n'est là que 4 ans. Le temps politique n'est pas du tout le même aux États-Unis, puisque tous les 2 ans, on a des élections législatives à échelle nationale. Tous les 4 ans, on a une nouvelle élection présidentielle. Donc, c'est un bras de fer qui peut durer quelques années, le temps que le rapport de force soit plus favorable aux démocrates. Oui.
Et en attendant, quel est le sort des étudiants et notamment des étrangers qui voudraient venir aux États-Unis ?
Là, ils doivent attendre. Là, je pense qu'ils doivent attendre. Mais pour un sujet aussi sensible, à mon avis, ils vont trouver une réponse rapide, j'espère.
Vous pensez que ça ne peut pas durer, là, les années de procédure judiciaire ? Il va y avoir une décision plus rapide ?
Non, il va y avoir quelque chose dans l'année, ça c'est sûr. Il va y avoir une décision dans l'année, oui.
Merci beaucoup, Gabriel Solans, d'avoir été en ligne avec nous, chercheur en civilisation américaine à l'Université Paris-Cité. Merci. Reportage en Lituanie, à Vilnius, où la mairie tente de développer la classe dehors. 10% des cours à l'extérieur pour les élèves du primaire jusqu'au lycée. Il existe même une plateforme qui met en relation les enseignants et les lieux qui proposent justement de faire des cours en dehors des établissements scolaires. Marielle Vituro.
La classe de seconde du lycée Sostinet de Vilnius s'est arrêtée devant un gros tas de déchets verts. La biomasse servira à alimenter les chaudières de la centrale de chauffage de la capitale lituanienne. Pendant 1h30, les élèves ont eu un cours de physique, de chimie, d'informatique, en plein air et très concret. À l'issue, un petit contrôle est organisé. À l'aide de cartes, les élèves doivent retracer le cycle du chauffage. Yunia a apprécié la visite.
C'est intéressant car on rencontre de nouvelles personnes, on apprend des choses. C'est toujours mieux que d'être assis sur sa chaise en classe, même si la physique ce n'est pas trop mon truc. Ça fait longtemps que je sais ce que je veux faire et grâce à ces cours, ça me convainc encore plus de mon choix.
La jeune fille voudrait devenir archéologue. Yelena, sa professeure principale, accompagne la classe. Elle fait partie des professeurs les plus actifs qui emmènent ses élèves 2-3 fois par mois à l'extérieur.
Tout est très concret, on peut voir, toucher. Aujourd'hui, ils vont aussi comprendre de quoi est composé le coût du chauffage. Je n'ai pas une classe très forte, il faut donc toujours trouver des moyens pour les motiver à apprendre.
De retour en classe, ils devront travailler sur cette excursion. Ils perfectionneront leur lituanien en restituant par écrit ce qu'ils ont appris. Le projet est né d'un appel d'offres international du fonds Bloomberg pour la philanthropie. Une Kaunaitė dirige Edu Vilnius, l'agence municipale en charge de l'éducation à Vilnius.
On dit tous que l'école n'est plus adaptée au 21e siècle. On parle des nouvelles compétences qu'il faut acquérir, mais les changements ne sont pas vraiment là. Avoir 10% des cours qui se passent hors de l'école, c'est ambitieux, mais c'est vraiment quelque chose de différent.
Les lycéens surtout sont friands de ces cours, car cela leur donne des clés pour leur orientation. Une Kaunaitė se rappelle d'une visite marquante.
Une entreprise privée propose un cours pour les terminales où on explique comment les fonctions mathématiques sont utiles pour l'intelligence artificielle. Après ce cours, les professeurs nous ont expliqué que pour la première fois, les élèves leur ont dit qu'ils comprenaient à quoi servaient les fonctions en maths et pourquoi il fallait les étudier.
Presque tous les professeurs de Vilnius, soit plus de 5000, se sont enregistrés sur cette plateforme pour faire classe à l'extérieur. Beaucoup de cours peuvent être adaptés dans d'autres régions et sont téléchargeables en libre accès, de quoi faire des émules parmi les enseignants du pays. Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Un reportage à retrouver en version longue dans l'émission Accent d'Europe à 17h10, temps universel. Vous pouvez aussi le réécouter quand vous le voulez sur l'appli RFI Pure Radio. Vous y retrouverez toutes nos informations et les journaux si vous souhaitez les réécouter. Vous restez avec nous dans une minute, l'actualité africaine. À tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Un jour de septembre 2020 à Solingen, en Allemagne, Christiane K. tue ses 5 enfants. Devant ses juges, elle plaidera non coupable. Une affaire qui interpelle tellement Prune Antoine qu'elle en fait un roman, La Mère Diabolique. Pour comprendre, mais peut-on comprendre ?
Écoutez De vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Les dessous de l'infox, Sophie Malibaud.
Boston, février 42. Dans un petit journal local naît une rubrique appelée la clinique des rumeurs, une sorte de laboratoire du fact-checking d'aujourd'hui. Pascal Froissart a enquêté sur cette initiative éphémère. Son mode opératoire et ses dérives sont riches d'enseignements à l'heure des réseaux sociaux et de la guerre de l'information.
Les dessous de l'infox avec Sophie Malibaud, tous les vendredis à partir de 17h30 TU sur RFI.